Voilà, voilà, l'attitude contemporaine, le retour, comme chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir Maria Carmela Mini pour la présentation de ce festival qui se déroule maintenant, chaque année, depuis
8 ans, c'est la 8e édition.
Bienvenue, donc un festival qui se développe, ne serait-ce que si on regarde la fréquentation et puis aussi les abonnements d'ailleurs.
Tout à fait, oui. Donc il y a quelques jours, au moment de la conférence de presse, on avait pas mal de réservations et ça monte.
Bon, ça veut dire que l'art qui dérange arrange.
Oui, surtout aujourd'hui j'ai envie de dire.
Et l'urgence a dérangé.
Tout à fait.
Donc un festival qui dure 10 jours. Oui. C'est à peu près ça d'habitude ou c'est plutôt une semaine ?
Non, ça a toujours été plus ou moins 10 jours.
Voilà, avec des moments de réflexion. Donc là, effectivement, en plus des spectacles qui sont présentés, il y a bien sûr les moments d'échange liés à ces spectacles, mais il y a aussi une rencontre, on va dire, professionnelle.
Tout à fait, oui. Une rencontre qui est extrêmement importante pour nous et une grande partie de la profession et pas uniquement française, qui sont des rencontres professionnelles autour des bureaux de production et de l'accompagnement des artistes.
Voilà, donc il faut dire que l'association qui pilote le festival Latitude Contemporaine s'appelle Latitude Contemporaine.
Tout à fait.
Et qu'elle intègre diverses activités, dont ce festival, mais aussi un bureau de production.
Tout à fait, donc un bureau de production qui gère les activités de 7 artistes d'envergure internationale.
Voilà, donc 7 artistes, on n'a pas toujours l'opportunité de les voir dans les festivals que tu organises.
Absolument.
Cette année, on en verra quelques-uns.
Deux,
voilà, c'est pas beaucoup.
Deux
mais
sur
en même
20
temps,
programmés.
C'est aussi intéressant de les confronter à ce qui est fait dans ce festival et à les croiser avec des gens qui viennent de l'extérieur et les présenter également.
Tout à fait, oui. Et ça me donne envie d'aller vraiment droit au but presque par rapport au festival. C'est-à-dire son identité qui est due à ma personnalité. Je pense que je suis quelqu'un qui a une conscience politique importante et je me rends compte qu'à la fois la programmation du festival présente souvent des artistes engagés politiquement, que ça soit humainement, eux personnellement ou dans ce qu'ils présentent sur le plateau. Et en fait, je me rends compte que les artistes que nous accompagnons dans le bureau de production, ce sont des gens qui eux-mêmes sont très engagés. Donc si on avait, je dirais, un lien à faire, c'est bien celui-là.
Alors on peut déjà parler de quelqu'un qui revient régulièrement dans tes propos, puisque c'est Steven Cohen, donc que tu soutiens depuis déjà un certain temps.
Tout à fait, oui.
Donc on peut peut-être expliquer en quoi il est unique et particulier, on va dire, dans son approche, dans sa démarche, dans son travail.
Alors, c'est vrai que Steven est peut-être l'artiste qui est le plus emblématique sur ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire son engagement sur scène. Il est enrichi et nourri et construit à partir de son identité et de son histoire, puisque donc, Steven Cohen est un artiste sud-africain dont la famille est originaire d'Estonie et qui a dû fuir la montée du nazisme dans les années 36 et donc arrivé en Angleterre où il fuyait le nazisme. On leur a dit qu'il n'y avait plus de place, qu'il y avait déjà trop de juifs arrivés dans le pays. Et donc on leur a dit, mais vous allez aller dans un pays du Commonwealth. Et ils sont arrivés en Afrique du Sud où ils ont vécu l'apartheid. Donc ils fuyaient un régime pour en subir un autre. Donc il y a une sorte comme ça de mainmise du destin assez tragique dans la famille. Et puis donc ensuite... Steven est arrivé dans cette famille et donc il est, enfin voilà, son identité est donc juive et emplie de cette culture. Il est homosexuel, donc rejeté, puisque l'homosexualité est interdite par la religion juive. Et donc voilà, il est artiste, travesti. Donc voilà, il y a tout ce background qui est très chargé. et qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement sensible, fragile, j'ai pas peur de le dire, mais lui montre cette fragilité quand il est sur scène d'ailleurs, et en même temps il vient nous dire tout ça et confronter face au public à la fois ce qu'il construit en tant qu'humain, donc il parle de son intime pour en faire des questions qui nous concernent tous, et c'est sa force, hein. Il vient nous parler d'homosexualité, des minorités, il porte un regard extrêmement acide et critique sur la société qu'on fabrique à travers l'économie, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la crise par exemple, c'est ce qu'on verra dans Golgotha et ce qu'il vient dénoncer, et c'est quelqu'un qui vient en permanence crier sur scène, enfin il a cette force, hein, et je crois que c'est important, enfin, qu'il y ait des gens qui viennent crier sur scène que ça va pas, quoi, qu'il y a des choses qui va pas dans cette société.
Voilà. Donc effectivement de son travail, de son œuvre, transparaît la souffrance et aussi la révolte contre l'injustice.
Absolument, tout à fait.
Donc il aura l'honneur peut-être, on va dire, de démarrer ce festival.
Absolument, et c'est assez symbolique pour moi parce que je crois que ça va donner la couleur du festival si on regarde l'état actuel en France, en tous les cas, des décisions qui sont prises au niveau de l'État par rapport à la culture, par rapport à l'éducation, toute la fonction publique est en train d'être démantelé et pour nous c'est extrêmement grave, et tout à l'heure quand je vous disais c'est important de crier aujourd'hui, de revendiquer des choses, aujourd'hui c'est important parce que ce qui se passe actuellement au niveau de la culture c'est très grave et même dangereux, et j'ai l'impression qu'on est en train de détruire ce qu'on a construit depuis 50 ans, et ça je crois qu'il faut qu'on fasse très attention.
Hier j'étais à la conférence de presse de présentation de saison de Didier Thibault de la Rose des Vents, et lui-même signalait ces problèmes que tu évoquais, et il a d'une certaine façon crier ça en n'écrivant rien dans la présentation de sa saison. C'est quand même significatif.
Tout à fait, oui. Non, mais je crois que tout le monde est inquiet dans la profession et je crois que le gouvernement actuel sait très bien ce qu'il est en train de faire et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on a du mal à se mobiliser, enfin encore, et alors peut-être qu'on va bientôt y arriver, parce que je me dis quand on n'a plus rien à perdre, l'être humain peut devenir très dangereux, comme nous sommes des animaux, hein, donc
au départ, oui, ça peut revenir très vite.
Absolument.
Hein. Et Stephen Cohen sait aussi de quoi il parle. Absolument. Dans ce domaine-là, il a vécu des moments où justement ce côté animal et sauvage, de sauvagerie, on veut dire, de l'humanité, était criante. Là, dans certains points du monde, ça se déplace encore. Hein. Il y a encore des zones quand même difficiles.
Oui. Tout à fait. Bon, il est d'Afrique du Sud et j'ai souvent l'occasion de m'y rendre avec lui parce que il travaille encore beaucoup. Actuellement, il a une très grosse exposition à Cape Town.
Ça se passe comment en Afrique du Sud?
Actuellement, justement, j'en parlais avec lui parce qu'il en revient il y a quelques jours et il me disait que l'effet Coupe du Monde est terrible. Ce qu'on ne dit pas dans les médias, bien entendu, parce que en particulier tout près du quartier de Soweto, où il y a le plus grand stade de Johannesburg qui a été construit, et il y a des gens qui vivent dans la rue, qui sont aux portes du stade et qui sont les spectateurs à l'entrée du stade, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, ni le droit ni les moyens de le faire, donc ça crée vraiment des tensions extrêmes, et je disais dans la presse hier matin, je crois qu'il y a actuellement à Johannesburg 50 assassinats par jour. Donc, ça, c'est pas dit. Et c'est vrai que Stephen vit avec tout ça. Enfin, ça reste son pays, même si aujourd'hui il habite à Lille et qu'il a fait le choix de s'y installer pour des raisons artistiques, ça reste quand même son pays d'origine, dans lequel il retourne quasiment, tous les 2-3 mois pour y travailler, parce qu'il a beaucoup d'activités encore là-bas. Oui.
Voilà, sur ces considérations un peu tristes, on va dire, hein, cette actualité, manière qu'il fallait dénoncer.
Tout à fait.
On va parler de choses festives, puisque festival, c'est quand même la fête.
Absolument. Même si on peut parler de choses graves en faisant la fête.
Ben, c'est l'occasion aussi de les mettre en valeur, ces contrastes font partie aussi de prendre conscience que quand la fête est terminée, il reste quoi, hein?
Absolument, tout à fait. Et puis, c'est vrai que le festival pour toute l'équipe, et d'ailleurs je voulais remercier Radio Campus parce que je me disais dans la voiture en arrivant ici, mais ça sent le festival parce que c'est, je me dis, une fois que je suis à Radio Campus, je sais que ça commence.
Voilà, ça y est, on y est.
Ça y est. Donc voilà, je voulais vous remercier.
C'est un plaisir d'être partenaire cette année encore d'ailleurs.
Tout à fait, oui. Et donc, on aura beaucoup de spectacles, donc une vingtaine, je crois, ce qui est une des plus grosses programmations depuis le début du festival, avec des personnalités très fortes, très puissantes pour tous les spectacles, et puis des gens très complémentaires dans leur regard sur la société, avec des gens extrêmement expérimentés comme Maggie Marin, Larry Bott, Mathilde Monnier. Donc voilà, des gens qui ont déjà un parcours tellement énorme face à des artistes qui, pour certains, font leur première création comme Aude Lachaise, qui, elle, vient vraiment présenter sa première pièce devant nous, donc ça sera le dernier spectacle le 18 juin. Mais je suis très fière parce que de pouvoir mettre côte à côte ces deux générations, j'ai envie de dire, et en même temps qui ont des points communs sur leur manière de travailler, je trouve ça vraiment beau, enfin très beau.
Voilà, donc cette année encore. Le festival s'étend sur plusieurs lieux. Alors, j'allais dire un de plus, peut-être.
Oui, alors même deux.
Deux de plus, oui.
Avec trois.
Trois, carrément. Ça devient un vigneron.
Absolument. Donc, puisqu'on sera à la gare Saint-Sauveur en partenariat avec l'île 3000. Mm-hmm. Ensuite, on investit la Maison Folie de l'Homme, Bonlieu, donc, qui est nouvellement arrivée sur le territoire de la métropole, qui est un très très beau lieu, vraiment, il porte bien son nom. Donc on s'étend un peu plus sur plus loin que la métropole, puisqu'on va aller jusqu'à Valenciennes et on va tisser ce premier partenariat donc avec le Phénix à Valenciennes.
Mmh. Alors, tu connais bien Valenciennes, on va dire.
Absolument, oui, c'est d'ailleurs c'est la ville de ma naissance.
Voilà, j'allais te le dire. Et en plus, la danse à Valenciennes, tu as connu ça aussi.
Tout à fait, puisque j'étais donc à l'espace Pasolini avec à l'initiative du festival Ligne de Corps, donc en 96, je crois, jusqu'en 2000.
Voilà, donc là, on est dans la région lilloise et Valenciennes partenaire.
Tout à fait.
C'est ça. Bientôt la Belgique l'année prochaine.
Ben on est déjà en Belgique, puisque Bruxelles, donc les latitudes contemporaines Bruxelles ont lieu en septembre, donc ça sera la deuxième année, donc en 2010. Et ça aussi, c'est un très 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 beau partenariat avec les Halles de Schaerbeek à Bruxelles.
D'accord. Donc cette année, tu as parlé des gens comme Maggie Marin qui sont confirmés et qui viennent. Je ne sais pas comment tu arrives à les programmer. Bon, je suppose qu'ils sont curieux de voir ce que c'est qu'un festival différent, neuf, etc.
Oui. Après, ce sont des affinités. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des gens engagés. Je crois que les affinités, elles se font à cet endroit-là aussi. Si je prends quelqu'un comme Maggie Marin, par exemple, qui est un exemple extraordinaire d'engagement politique, quand elle est arrivée donc à Lyon avec ce centre chorégraphique qu'elle a destiné à la banlieue lyonnaise, elle a voulu s'y installer, elle a fait un gros, gros travail en direction des publics défavorisés. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a une éthique et un engagement politique extrêmement fort. Le fait qu'elle décide aussi, alors qu'elle pourrait tout à fait avoir la facilité de faire autrement, elle décide de quitter le centre chorégraphique cette année, alors qu'elle est vraiment reconnue par la planète entière et que personne ne la chasse. Elle pourrait y rester encore des années et des années, bien entendu. Et elle décide de manière volontaire de partir pour se remettre en question, pour essayer de retrouver un engagement politique ailleurs, moi je trouve ça d'un courage extraordinaire. Et c'est à ces endroits-là aussi qu'on se reconnaît. Et je crois que si Maggie choisit de venir aux Latitudes Contemporaines présenter une pièce qu'elle ne joue que 4 fois par an depuis 2006 et qu'elle fera sa dernière représentation ici parce que c'est une pièce qu'elle ne veut plus tourner, parce que c'est quelque chose qui, enfin, c'est un spectacle qui l'engage énormément physiquement et mentalement et moralement. Si elle a décidé de le présenter aux Latitudes, c'est aussi parce qu'elle sent que derrière il y a un discours, parce que derrière il y a un engagement d'une équipe, une éthique et une déontologie de travail en tous les cas, et un regard différent sur les artistes, je pense.
Voilà, donc un engagement effectivement, mais aussi un lieu de ressources nouvelles, enfin d'esthétique nouvelle, hein, à découvrir,
à
donc de ressourcement possible.
Absolument, oui. Hein.
Donc dans les ressources nouvelles, on peut peut-être parler de quelqu'un qui était au Fresnoy il n'y a pas longtemps, qui a travaillé à la fois la vidéo et la danse, qui est allé à Armentières il y a quelques temps, et qui revient dans ce festival.
Oui, donc Mylène Benoît, donc c'est vrai qu'elle fait partie de cette nouvelle génération qui est en train de renouveler des esthétiques, comme c'est le cas d'autres, comme Marie-Caroline Ominal ou François Chéniaud. Et c'est vrai que c'est toute une nouvelle génération qui ont entre 24 et 28 ans. Hein, et c'est vrai que... ce qui est très beau, c'est de voir à quel point ils ne sont pas ni dans la comparaison, ni dans le rejet de ce qui s'est passé avant eux. C'est quelque chose qui les nourrit. Ils sont nourris de tout ça et ils essayent de construire quelque chose à partir de tout ça. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant de voir comment ils travaillent.
Non, une question qui me brûle un peu comme ça, est-ce qu'on peut être professionnel de la danse contemporaine directement en passant par la vidéo sans avoir la culture de la danse traditionnelle, classique, moderne, etc.
Alors ça, c'est une question... Je pense que je pense qu'on, si on n'a pas fait de danse classique, on peut faire de la danse contemporaine, ça j'ai aucun doute. Pour moi, la danse, c'est surtout un rapport du corps à l'espace. Et à partir du moment où quelqu'un maîtrise cette notion du rapport du corps à l'espace, il peut commencer à dire je veux faire chorégraphe. Enfin, pour moi, l'essentiel est là. Et on pose souvent la question des metteurs en scène qui font parfois de la chorégraphie. Est-ce qu'on voit la différence? Pour moi, oui, absolument. Enfin, je suis capable, quand je regarde un spectacle, de voir si c'est un chorégraphe ou un metteur en scène qui a mis en scène ou qui a chorégraphié. Ça, c'est évident. Parce qu'il y a une relation, une intelligence de l'espace qui est totalement différente.
Alors, ce serait facile de demander qu'est-ce que le public peut attendre de ce festival, mais ça, on a déjà questionné les gens là-dessus. Si je prends la question inverse, qu'est-ce que vous attendez du public cette année encore, ou cette année maintenant, spécialement ?
Alors, peut-être, qu'ils viennent partager d'abord ces moments forts, parce qu'il y en aura, hein. Il y a beaucoup de spectacles, que ça soit Golgotha de Stephen Cohen ou que ça soit Ça quand même de Maggie Marin. Ce sont deux spectacles où j'ai vu, ce sont des spectacles que j'ai vus plusieurs fois parce que pour moi ils sont extraordinaires, et c'est des spectacles où j'ai vu des gens pleurer. Mais vraiment, enfin, et rester dans la salle plus d'une demi-heure, parfois complètement atterré dans les sièges. Plusieurs fois, je suis restée en bord de scène comme ça, à regarder le public, et je trouvais ça magnifique, parce que je me disais, mais c'est ça qu'il faut faire tout le temps. Alors, bien sûr, c'est pas évident. Alors, j'espère qu'on arrivera à créer ces moments de tension, d'émotions comme ça extrêmes, parce que je crois que les gens ne sont pas touchés pour, en tous les cas, ces deux spectacles, et je crois qu'il y en a plein d'autres, parce qu'ils voient, mais je pense qu'ils sont touchés par ce qu'ils sentent et ce qu'ils entendent du plateau. Pas au niveau du texte, hein, d'entendre dans le son presque, enfin, le son des corps, le cri dont on parlait tout à l'heure. Et oui, j'aimerais qu'il y ait peut-être conscience, puisque les spectacles que je montre, beaucoup sont engagés politiquement, donc je me dis peut-être une conscience du monde dans lequel on est, et voilà, enfin, partager au moins ça, quoi.
Alors, autre moment aussi où le public est attendu dans sa réaction et peut-être dans sa réflexion, et sûrement dans sa réflexion, sont les instants critiques qui continuent de nourrir la réflexion, le débat après le spectacle. C'est très important pour vous.
Ah oui, extrêmement important. Et d'ailleurs, on remarque chaque année, on a un nombre de publics qui reste un public de plus en plus nombreux, et ça montre bien qu'il y a une envie, vraiment un souhait du public de discuter avec ses artistes et d'aller plus loin que ce qu'ils voient sur le plateau. Et c'est vrai que cet échange qui est ces instants critiques, voilà, où on demande à quelqu'un du public d'intervenir, de jouer un peu le rôle de médiateur, faciliter le dialogue, ça fonctionne très très bien, hein, parce que en fait on s'aperçoit qu'il joue très très bien ce rôle de passerelle entre les artistes et les autres spectateurs, et ça libère les paroles, et c'est vraiment des moments très forts d'échange, tout à fait.
Mmh. C'est vrai que quand on va voir un spectacle de danse, habituellement il n'y a pas forcément ce rapport avec l'artiste. Là on est dans un processus où le festival permet justement cet échange et peut-être de construire aussi la culture des gens qui viennent, la culture de la danse, des gens qui sont aussi là pour être surpris et essayer de comprendre.
Tout à fait, oui. Oui, pour moi c'est essentiel. Alors j'aurais pas la prétention d'éduquer le public comme ça de manière péremptoire, hein, du tout. En tant que programmatrice, je me dis que j'ai un rôle à jouer, et ce rôle, il est en tous les cas dans cette de mettre en place les outils d'échange, de compréhension, d'accompagnement, non seulement des artistes, mais aussi du public dans sa démarche. C'est vrai que la danse contemporaine, comme l'art contemporain, la musique contemporaine, fait peur parce qu'on n'a pas le sentiment de comprendre vraiment ce qui se passe, et en même temps quand on nous donne les clés de compréhension, quand on nous facilite l'appropriation de ces objets, finalement c'est facile, enfin, c'est beaucoup plus simple en tous les cas.
Voilà, donc si vous voulez être surpris, mais aussi si vous voulez comprendre les raisons de votre surprise et vos émotions aussi, hein, ben, n'hésitez pas, ça démarre le 8, hein, et ensuite toute la programmation jusqu'au 18, on peut la retrouver sur le site, bien sûr, de Latitude Contemporaine. Un dernier point, l'accès au spectacle, en gros, c'est cher, pas cher?
Non, on essaye vraiment, vraiment, là aussi, de faciliter l'accès à ces spectacles. Puisqu'on a un plein tarif à 13 euros, ce qui est, je crois, plus ou moins proche d'une place de cinéma. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au cinéma.
9 euros.
Oui, donc. Et puis ensuite, des tarifs réduits donc à 7 euros. Il y a aussi un abonnement pour 4 spectacles. À partir de 4 spectacles, le tarif descend tout de suite à 7 euros donc, par spectacle. Donc voilà, c'est vrai qu'aller voir un spectacle comme celui de Maggie Marin, comme celui de Stephen Cohen ou Mathilde Monnier, ou découvrir ces jeunes talents en devenir, pour 7 euros, pour moi c'est vraiment une chance que je donne au spectateur, qui est très belle, enfin, très forte.
Un intérêt particulier pour les étudiants?
Un intérêt, oui, on fait un gros travail de médiation, et pas seulement avec des étudiants. Donc il y a Pauline Copé, qui est chargée de la médiation pour les Latitudes, qui fait un très très beau travail avec une stagiaire qui s'appelle Amiel, qui est chez nous depuis 6 mois maintenant, et donc qui ont vraiment fait un excellent travail aujourd'hui, cette année. Et elles sont allées dans le milieu carcéral aussi, elles sont allées faire tout un travail de médiation aussi auprès de la LEFPA, qui est un centre de formation de jeunes adultes, qui des jeunes adultes qui sont sortis un peu du circuit, on va dire, social. Et donc la LEFPA met tout en place pour que ces jeunes reviennent, en tous les cas, dans leur vie au moins, et puissent se tracer un avenir. Et donc avec Guillaume Loger, qui est le directeur de la LEFPA pour la métropole illoise, on a mis tout en place un partenariat où on aura 25 jeunes adultes qui vont venir aux latitudes faire un stage. C'est-à-dire que certains seront techniciens, vont aider à la technique, d'autres au catering, préparer les repas pour les artistes, le public, etc. Et l'idée, c'est de leur faire découvrir les métiers du spectacle, costumières, habilleuses, etc. Pour peut-être éveiller des curiosités ou des envies de rentrer dans cette profession.
Bien, merci Maria Carmel Amini. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur tous ces spectacles et toutes ces actions qui sont mises en œuvre en cette occasion dans le cadre de ce magazine Quoi de Neuf, chaque mercredi pendant la période du festival, donc jusque fin juin. Merci, vous êtes à l'écoute de Radio Campus, partenaire du festival Latitude Contemporaine.